agir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Ben, c'est une histoire d'Étienne Paré de ce matin, là, donc, dans le Journal de Montréal, qui a attiré notre attention, là, un Montréalais, un gars de 27 ans, qui, à un moment donné, s'est mis à boire des boissons énergisantes, une puis une autre. Il s'est rendu jusqu'à 8 canettes de boissons énergisantes par jour. Et il a fini par développer ce qu'il considère être une dépendance à ces boissons énergisantes. Puis il dit, à un moment donné, il dit là, je voyais que j'avais un problème. J'ai essayé de me sevrer. J'y arrivais pas. J'ai demandé de l'aide. Je me suis tourné notamment vers des maisons de thérapie qui traitent les dépendances. Et on me répondait toujours, j'ai pas de problème de dépendance. En d'autres mots, sa dépendance qu'il avait, mettons, auto-diagnostiquée, n'était pas reconnue par les maisons de thérapie vers lesquelles il se tournait. C'était comme si... Alors, on s'est dit, est-ce que ça existe vraiment, ça? Est-ce que c'est effectivement de plus en plus fréquent qu'on retrouve des personnes qui, à un moment donné, ne peuvent plus se passer de ces boissons énergisantes? Alors, pour en discuter, on va aller rejoindre Anne-Élisabeth Lapointe, qui est directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances. Bonjour, Anne-Élisabeth.
Bonjour.
Est-ce que ça vous surprend d'abord, cette histoire-là?
Oui, quand même. Quand on a communiqué avec moi, justement, par rapport à ce cas-là, j'étais surprise parce que j'avais jamais entendu parler d'une demande d'aide en lien avec les boissons énergisantes pour les adultes, tout d'abord. Donc, c'est sûr que j'étais surprise, pas surprise de voir que quelqu'un peut devenir dépendant, mais j'étais surprise quand même de voir que c'est quelqu'un qui a voulu arrêter et passer par le biais des maisons de thérapie pour essayer d'arrêter sa consommation. Donc, c'est sûr que pour cette personne-là, il était en perte de contrôle et il n'était pas capable seul d'y arriver, ce qui est quand même une définition très large de la dépendance.
Oui, mais c'est ça, je veux revenir. Tu as dit, j'étais pas surprise de voir qu'il était devenu dépendant. Pourquoi tu n'étais pas surprise de ça?
Parce que une boisson énergisante, c'est une boisson qui contient normalement de la caféine ou des produits similaires à la caféine, comme la guarana. Et c'est sûr que ces produits-là, en fait, ce sont des stimulants par la guarana, la caféine et aussi le sucre, évidemment. Oui. Alors, c'est sûr qu'on peut, plus on va en consommer, plus on est à risque de devenir quand même accro. Regardez les gens qui boivent des cafés, qui essayent d'arrêter. Ils ont des symptômes de sevrage, entre guillemets, quand on arrête de consommer de la caféine. Évidemment, on peut pas comparer nécessairement une autre dépendance à une autre substance qui pourrait être beaucoup plus évidente et peut-être dangereuse, mais n'empêche que quand on arrête de consommer ces boissons-là, on vit des symptômes de la même façon que quand on les consomme, on en vit. Donc, c'est sûr que ça vient affecter le corps et même le cerveau d'un individu. Là, c'est un stimulant.
Alors, quand tu lis ça, quand tu entends un témoignage comme celui-là, et puis je vous le dis tout de suite, là, les auditeurs, on va prendre vos appels. Si ça vous tente de nous appeler pour nous parler un peu de votre consommation de boissons énergisantes, pas pour vous faire juger. Là. Moi, je vous juge pas, là, c'est pas ma job, là, mais pour que vous puissiez témoigner de ce que c'est. Mettons que vous en prenez beaucoup, là. Puis que vous êtes devenu un peu accro à ça, que vous n'êtes pas particulièrement gêné, là, je veux dire, ça se peut que ça fasse partie de votre vie maintenant, puis que vous vous sentiez bien, puis que vous ayez le goût d'en parler, bien, vous nous appellerez 790-9850. Peut-être qu'il y en a parmi vous, à un moment donné, justement, vous êtes dit, ouais, là, ça n'a pas de bon sens, là, j'en prends trop, je vais essayer de diminuer, et peut-être que ça n'a pas été si facile que ça. Si ça vous tente d'en discuter, vous pourrez le faire, vous nous appellerez. Mais continuons d'abord avec l'entrevue. À partir de quand on peut dire qu'on a un problème de dépendance, Anne-Élisabeth Lapointe?
Écoutez, c'est quand on se regarde nous-mêmes, donc pour la personne qui peut-être aurait un problème de dépendance, mais c'est sûr qu'on peut regarder si est-ce que la personne y pense souvent, donc est-ce que ça prend une place importante dans sa journée. Alors l'individu en question dont on parle dans l'article, on voit que oui, c'est quelqu'un qui avait essayé puis qui n'était pas capable d'y arriver parce que ça le préoccupait puis il voulait en consommer. Donc, c'est sûr que déjà, d'être préoccupé par cette substance-là, c'est un premier signe. Et c'est aussi d'avoir essayé, fait des tentatives d'arrêt sans réussir. C'est c'est un autre signe également. Alors, basé juste sur ce que je sais de l'individu, on peut voir donc qu'il y avait une problématique qui était en train de s'installer. Et comme je vous disais plus tôt, c'est sûr, c'est étonnant parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un cas d'un adulte dépendant qui a fait une demande d'aide. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais vu, ni au Centre québécois de lutte aux dépendances, ni en discutant avec des gens, soit à la maison, Jean Lapointe, ou dans d'autres centres de thérapie.
Donc, la dépendance, quand tu dis, c'est d'y penser, tu te lèves avec ça, puis tu y penses, et puis si tu ne l'as pas, ta dose, tu continues d'y penser.
Oui.
Tentative d'arrêt qui ne réussit pas.
Oui.
Donc,
et comment on sent quand on arrête? Il y a aussi tout ça, donc tous les symptômes, que ce soit physique ou psychologique, quand on essaye d'arrêter, est-ce qu'on devient plus irritable? Est-ce qu'on est impatient? Est-ce qu'on est déprimé? Etc. Est-ce qu'on est anxieux? Bon, il y a toutes sortes de symptômes autour qui peuvent nous dire, oh mon Dieu, OK. C'est un peu comme le café. Pour les gens qui boivent du café tous les jours et qui essayent d'arrêter ou qui ne pourront pas en prendre pendant quelques jours, c'est sûr qu'ils vont ressentir quelques effets désagréables d'avoir arrêté.
Oui, mais il ne me viendrait pas à l'esprit, je pense pas, en tout cas, de penser que...
Il faut aller en traitement.
Oui.
Exactement, c'est sûr, et c'est pour ça que la demande et la nouvelle est quand même impressionnante, du fait que cette personne-là s'est dit par moi-même, je ne serais pas capable, et qu'a fait l'association, en fait... Mon problème de boisson énergisante ressemble drôlement à un autre problème d'une autre dépendance à une substance, donc je vais appeler à une maison de thérapie. Mais on s'entend, une boisson énergisante et la dépendance à cette boisson-là aurait pu tomber aussi dans un problème d'alimentation, où la personne aurait pu se tourner vers un nutritionniste, admettons, pour l'aider à faire une diète. Donc, ça aurait pu tomber, la personne aurait pu se tourner vers d'autres sources d'aide que celle de faire une demande d'aide dans un centre de traitement. L'association n'est pas mauvaise parce que c'est sûr que, comme je vous le dis, une boisson énergisante, c'est un stimulant. Donc, ça fait partie des substances.
Oui. Mais là, dorénavant, là, mettons que quelqu'un vous appelle, Anne-Élisabeth Lapointe, puis vous dit « j'ai besoin d'aide là avec les boissons énergisantes, je pense que j'ai développé une dépendance », quelle sera votre réaction?
Mais la même réaction que si cette personne-là avait téléphoné directement au Centre québécois de lutte aux dépendances ou à la maison Jean Lapointe. Moi, c'est sûr que je vais écouter quelle est la demande. Et comme c'est une nouvelle demande, bien, c'est sûr que j'aurais voulu rencontrer la personne et bien évaluer toute la situation. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui utilisait ça pour soulager d'autres symptômes d'autres choses, admettons? Y a-t-il d'autres problématiques sous-jacentes? Quelles sont les conséquences? Donc, est-ce que vraiment ça fait en sorte qu'il y a de la difficulté à fonctionner? Et ce serait de regarder les modalités de traitement. Donc, est-ce que cette personne-là a besoin de venir vraiment à l'interne 3 semaines pour être certain de ne pas en consommer parce qu'il n'y a aucun contrôle par lui-même? Ou est-ce qu'il serait capable à l'externe en voyant quelqu'un juste 1 à 2 fois par semaine, admettons. Donc, on aurait fait le tour de la question des boissons énergisantes et de la santé générale de l'individu pour après ça recommander un traitement quelconque. Mais une personne qui insiste et qui aurait voulu venir 3 semaines à l'interne, c'est sûr qu'on peut prendre la personne, mais moi, je me dis, mon Dieu, c'est beaucoup, là, parce que c'est tout un engagement de venir 3 semaines travailler sur soi, et c'était peut-être nécessaire dans le cas de l'individu.
Oui.
Mais c'est sûr que toute demande d'aide, peu importe pour la raison, on la prend au sérieux. Et si nous, on n'est pas capable d'y répondre, bien, c'est sûr qu'on va référer au meilleur endroit qu'on va juger qui va être... aidant et bénéfique pour l'individu.
Je vais te dire, je suis un petit peu partagé, OK, sur cet enjeu-là, parce que d'un côté, je me dis, tu sais, de dire j'ai demandé de l'aide puis je ne l'ai pas eu, je ne peux pas reprocher à la personne de dire j'avais besoin d'aide, j'y arrivais pas tout seul et je voulais l'aide de quelqu'un, d'un groupe, d'une aide professionnelle. Je peux pas dire c'est pas vrai que t'avais besoin d'aide. Tu sais, je veux dire, voyons donc, la personne dit, garde, j'étais démuni, j'y arrivais pas par mes propres moyens. Faut respecter ça. En même temps, je vais te dire, je trouve que par moment, on se décharge un peu facilement des problèmes qu'on s'est nous-mêmes créés. C'est comme si on faisait porter sur les autres le problème dont on est le premier responsable. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui. Oui, c'est sûr que, bon, ça pourrait être tout un débat. Moi, je crois en même temps que ce n'est pas nécessairement remettre à l'autre la charge. Je crois que c'est de reconnaître, au contraire, ses propres limites et aller chercher de l'aide, c'est preuve, je trouve, d'un grand sens de responsabilité, parce que la personne qui décide de faire une démarche, c'est pas les intervenants qui font la job, là, c'est la personne qui est en thérapie qui fait le gros du travail. Alors pour moi, c'est plus de reconnaître chez la personne quand même une certaine force qui est celle de reconnaître que tout seul, je suis pas capable d'y arriver. Mais encore une fois, c'est d'aller évaluer, OK, qu'est-ce qui fait que cette personne-là n'est pas en mesure par elle-même d'arrêter? Mais c'est la même chose pour quelqu'un, on va regarder au niveau de l'alimentation, qui essaierait de couper les boissons gazeuses, qui essaierait de couper le sucre, le chocolat. Et je vous nomme ceux-là parce que ça a des effets similaires. On peut pas reprocher à la personne d'aller chercher de l'aide si elle n'y arrive pas par elle-même. En tout cas, selon moi, c'est sûr que c'est ma lunette à moi, là, comme ça.
Oui, non, je trouve ça. J'aime bien ton. Quand tu dis, il y a une certaine force dans le fait de reconnaître qu'on ne peut pas y arriver oui. soi-même. Ça, je te suis là-dessus. Je te suis là-dessus. Parce que ça prend une certaine humilité, j'imagine, de reconnaître oui. sa propre faiblesse, là, puis de dire, oui. regarde, j'ai essayé par mes propres oui. moyens, puis regarde, aidez-moi quelqu'un. Là.
Absolument, parce que ce qu'on lit dans l'article, et quand j'ai parlé aux journalistes aussi, ce qu'on sentait, c'est vraiment cette détresse-là de l'individu.
Oui, c'est ça.
Qui était nouveau pour moi de voir ça avec quelqu'un, avec les boissons énergisantes. Mmh, mais effectivement, ça peut se produire. De toute évidence, cette personne-là en est la preuve.
Ah, voilà.
Mais moi, je crois qu'à ce moment-là, c'est sûr, la personne s'est tournée vers les maisons de thérapie. Comme je disais, elle aurait pu se tourner vers d'autres types d'autres de ressources.
Solutions, voilà.
Mais c'est celle-là qu'elle a choisie. La logique, on la comprend aussi.
Voilà. Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
On me dit qu'on a déjà des très bons appels au 790-9850 par texto 98985, Drainville à commercial 985fm.ca. On va s'arrêter puis on va commencer à prendre des appels tout de suite après la pause. On va aller à nos appels. Martin qui nous appelle donc sur les boissons énergisantes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Salut.
Ben moi, en réalité, c'est un peu peut-être comme la personne précédente, mais bon, à l'époque, je buvais quand même beaucoup de caféine. J'avais des journées de 18 heures par jour. Fait que je commençais ma journée par 2-3 grands cafés Tim Hortons. Je me prenais un Silex au travail au complet. J'en partais même un deuxième. Là, on commençait l'après-midi, je me prenais 2, 3, 4, 5, 6 Red Bull format géant. Et puis, écoutez, j'ai fait ça pendant un bout de temps, stimulé la nuit, pilule pour dormir, parce qu'évidemment, je suis jamais capable de dormir, parce que c'est stimulé, fait que Red Bull, pilule. Et puis, jusqu'à ce que, un moment donné, mon corps flanche complètement. Puis, la première fois, je me suis ramassé à l'hôpital, je faisais 220 de pression sur 140. Les médecins m'ont dit, écoute, ça m'étonne que t'aies pas fait un AVC puis que tu sois pas mort. J'ai saigné du nez pendant environ 2 heures de temps, puis j'avais beau me boucher le nez, ça me sortait pour vrai par la bouche. J'étais incapable d'arrêter de saigner. Après ça, je me suis calmé un peu, puis on n'apprend pas de nos erreurs. Fait que je me suis dit, bon, ben, coudonc, ça va bien. J'ai recommencé, je me suis ramassé à l'hôpital cette fois-là pendant 3 jours. Aujourd'hui, ben, je prends des médicaments parce que je fais de la haute pression. Malheureusement, le médecin m'a dit que notre corps s'habitue à faire de la haute pression. Fait qu'après ça, il y a de la misère à redescendre. Fait qu'aujourd'hui, je prends des médicaments, je vais en prendre pour le reste de ma vie. Et puis j'ai fait un gros sevrage. Ça m'a pris un gros 6 mois, là, 1 an à me débarrasser. Là, les premiers temps, là, je tremblais comme une feuille. J'avais besoin de caféine. J'en avais tellement besoin. Mais depuis que j'ai réussi à m'en débarrasser, ça va maintenant faire bientôt 4 ans que je bois même plus un café à part du décaféiné. Ben, pour vrai, là, je me porte tellement mieux. Je me sens en santé. Et puis, je bouge plus. Fait que pour vrai, là, c'est terminé pour moi, ces boissons-là.
Aïe, aïe, aïe. Juste avant de te laisser aller, est-ce que tes médecins sont convaincus que ton problème de haute pression est lié, en partie du moins, à ta forte consommation de boissons énergisantes à un moment donné dans ta vie?
Ben, c'est sûr aussi que peut-être de mal manger, ça n'a pas aidé. Mais ce que les médecins me disaient, c'est que, semble-t-il, que le corps apprend. Fait que si un jour, notre pression monte à 180, le corps va se dire, ben, si je peux monter à 180, je peux monter à 190. Fait que le jour où tu atteins 190, tu peux monter à 200. Tu peux monter, comme dit, quand je me suis rendu jusqu'à 220.
Puis les boissons énergisantes boostent d'une certaine façon cette tendance vers le haut, là.
Ben oui, ça augmente le rythme cardiaque. Moi, pour vrai, c'est fini.
Merci, Martin. Merci pour l'appel. Normand, tu as 30 secondes.
Oui, ben c'est parce que la petite madame a répondu à mes questions. Ben, je me demandais si une personne pouvait être dépendante de la liqueur. Et moi, ma blonde, c'est du Pepsi. Elle, c'est minimum 12 canettes par eau. C'est comme ça n'a même pas d'allure.
12 canettes?
Oui. Elle, quand elle a buvait du Pepsi en canette, en bouteille, en plastique, quand elle a goûté à celle en tôle, là, le, en métal, là, le goût que ça y faisait, ça fait 3 ans, et peut-être plus, là, c'est minimum 12 canettes par jour. Là.
Ben,
là, elle dit, va te faire suivre. Elle dit, là, t'as un problème de dépendance. Elle dit, c'est impossible, tu peux pas être dépendant de la... Bon, du coup, donc. Elle reste la même, là, ben, elle en fait qu'elle a des petites pelules de diabète, mais c'est trop, là, 12, 13, 14, quand ils sortaient les casings avec 15 Pepsi, c'était un nombre de 25 ans par jour, régulier.
Aïe, aïe, aïe. Merci, Normand, pour l'appel. Je me demande si c'est pas la prochaine question qu'on va devoir soulever, là. La dépendance au sucre. Moi, je suis une bébête à sucre, là. Puis moi, je suis une bébête à sucre, puis je vous le dis, là. Moi, je pense que j'ai un petit problème avec le sucre. Je me contrôle, là. Mais je n'irai pas jusqu'à dire, là, j'ai besoin d'une thérapie, là. Tu sais, je suis capable de. Mais le sucre, là, c'est, d'une certaine façon, ça peut devenir une drogue. OK. On s'arrête, parce qu'au retour, il faut parler du G7, là, le G7, les 7 plus grands pays qui débarquent au Québec, ils vont être à Charlevoix, Donald Trump va être là, toute la bastringue, mais ça attire ça dans son sillon des manifestants, n'est-ce pas? Et là, la question qui se pose, est-ce qu'il va y avoir de la casse? Pas à la Malbaie, là où les 7 chefs d'État vont être, non, à Québec. Puis là, les gens de Québec, ils ont connu le sommet des Amériques. Ça a chauffé, ça a bardé, puis ça demande si ça ne va pas se reproduire cette fois-ci dans quelques semaines pour le G7. On en parle après la pause.